Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce samedi 27 juin au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité cinéma, puisque, alléluia, les salles viennent enfin d'être réouvertes depuis une semaine, avec Eva Bettan de France Inter, Eric Neuf du Figaro, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série tous les samedis soirs à 20h, et avec Michel Simon de Positif. On parle donc de trois nouveautés: L'ombre de Staline, Fille de joie, Béni, de trois rééditions: La rumeur de William Wyler, La roue d'Abel Gance, Prova d'orchestra de Fellini, et enfin on rend hommage à Jean-Loup Dabadie avec César et Rosalie de Claude Sautet dans Le Courrier de la semaine. Jérôme Duvivier de Lyon a aimé qu'on parle au masque d'Abemus Papam. Nanni Moretti ne succombe pas, nous écrit-il, à la tentation de l'anticléricalisme. Il en résulte une tension intérieure qui fait toute la subtilité du film. Piccoli, comme à son habitude, sert magistralement ce projet. Au contraire, Laurent Binet de Nice est déçu de voir son cher masque se pâmer devant Abemus Papam. Tout d'ennui, nous écrit-il, et de longueur. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Voilà ce que nous écrit Laurent Binet. Quant à Marie-France Le Tenou, elle rappelle, comme je l'avais fait d'ailleurs pendant l'émission, que le nom du pape incarné par Piccoli, le cardinal Melville, est à la fois un hommage effectivement à Jean-Pierre Melville, mais aussi au Bartleby d'Herman Melville, qui raconte bien l'attitude de ce cardinal qui ne veut pas devenir pape. Enfin, à propos du Tutsi de Sidney Pollack dont on parlait la fois dernière, Jacqueline Hadouche s'étonne. Même à la sortie de ce film sympathique dans son propos, mais pathétique dans sa forme, je n'ai jamais compris comment quiconque pouvait être trompé quant au sexe de Tutsi. Quand c'est Superman qui disparaît sous les lunettes de Clark Kent, nous dit Jacqueline Hadouche, on fait semblant de marcher parce que c'est tiré de comics. Mais quand c'est censé être une situation potentiellement vraie, non. La forme devrait servir le fond et pas l'éclipser. Voilà pour Le Courrier de la semaine. Et on commence, si vous voulez bien, avec L'ombre de Staline de la Polonaise Agnieszka Holland, un film qui aurait dû sortir le 18 mars et trouve enfin son grand écran pour un sujet historique tout à fait véridique. On est en 1933. Et le Gallois Gareth Jones, qui est joué par James Norton, qui est à la fois journaliste et conseiller du Premier ministre britannique, débarque à Moscou. Il a déjà réussi à interviewer Hitler au culot et dans un avion. Et là, il compte bien décrocher le même scoop, mais avec Staline. Seulement voilà, le petit père des peuples est inapprochable. Et surtout, il est protégé par des journalistes tout à fait véreux qui servent sa propagande, parmi lesquels le correspondant à Moscou du New York Times, qui s'appelait Walter Duranty, qui est joué par Peter Sarsgaard. Et lorsque Gareth Jones sème les agents de la GPU et part pour l'Ukraine, il découvre l'ampleur de la famine, le fameux Holodomor. Je vous rappelle que c'est estimé entre 2,5 millions et 5 millions de victimes, que évidemment Walter Duranty s'empresse de nier. Pour la petite histoire qui n'est pas dans le film, qui est donc après le film, ce lanceur d'alerte, hein, qui s'appelait Gareth Jones, sera assassiné en Mongolie intérieure, très jeune, à l'âge de 29 ans. Et il faudra attendre 1990 pour que dans un édito, le New York Times dénonce les mensonges de son correspondant à Moscou, Walter Duranty. Bref, c'est vrai que le film est classique, mais je trouve que d'abord il est capital du point de vue historique, et puis il raconte pour la première fois en images ce duel entre ces deux journalistes, l'un qui est allé jusqu'au bout de sa vérité et l'autre qui était un imposteur et surtout un vendu. Eric.
Je sais pas si le film est quinquennal, mais il est plan-plan, en tout cas. Mais c'est peut-être une qualité, puisque c'est voulu. C'est un film historique comme les histoires de l'oncle Paul qu'on lisait dans Spirou pour apprendre aux enfants ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. Et le fait est que c'est un épisode qu'on a assez peu traité au cinéma. Et moi, j'aime bien quand on prend un journaliste comme héros. Et celui-là est vraiment un type formidable qui est apparemment était plus ou moins copain avec George Orwell, qu'on voit à intervalles réguliers en train de taper.
Oui, enfin, c'est plutôt qu'il aurait inspiré la
oui,
ferme
c'est ça,
des
ouais,
animaux.
Ouais. C'est le point d'orgue du film. Voilà. On voit Orwell taper à la machine cette histoire inspirée de cet épisode tragique avec des millions de morts, comme tu le disais. C'est le film de reconstitution banal et très convenable où on voit ce type qui se fait prendre pour un espion, qui part clandestinement dans un wagon où il échange une miche de pain contre un manteau, où il croise des enfants qui lui volent ses provisions, il tombe sur des paysans morts de froid dans leur lit. Et c'est un film à la fois chichiteux, parce qu'il y a il y a des petites afféteries de caméra par moment, des ralentis, des accélérations qui ne servent pas à grand chose. Il y a aussi un problème, c'est que l'assistante du méchant journaliste du New York Times, c'est la sœur de la reine dans The Crown, alors ça crée un petit décalage. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et Peter Sarsgaard est excellent en journaliste véreux, partouzeur, opiumane, qui organise des orgies dans son appartement. Et si on s'intéresse à ça, pour la reprise, doucement, on aura ce film sérieux.
Si tu permets, je vois pas comment on peut ne pas s'intéresser à ce sujet-là.
Non, mais c'est très bien.
Eva.
Le sujet est effectivement très intéressant et c'est un interporteur en quelque sorte. C'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Il se pose une question très simple, mais d'où vient l'argent de Staline? Comment il fait? Là, on est en 1933. Et on nous dit que l'Ukraine, c'est le grenier à blé. Donc, il se débrouille pour aller voir ce grenier à blé. Ce qu'il y a de bien, c'est que il ne passe que quelques jours là-bas, donc elle prétend pas nous montrer toute la famine. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, les famines sont liées à des conditions climatiques. Là, c'est une famine politique. Il veut l'argent et il les affame. Il y a des scènes que je trouve. Il y a une scène que je trouve qui ne peut pas passer. C'est une scène de cannibalisme. Je ne sais pas comment on montre le cannibalisme, mais le montrer comme ça, c'est une scène extrêmement maladroite. Après, oui, c'est extrêmement classique comme manière de faire. L'histoire est formidable. Le cannibalisme, elle aurait pu peut-être trouver une autre manière.
Enfin, ce duel me paraît important entre ces deux journalistes, Xavier.
Mais c'est incontestable que le sujet, il est important, qu'il n'a pas été assez traité, qu'il faut le traiter, bien évidemment. Fallait-il le confier pour autant à Agnieszka Holland, qui n'est pas réputée pour sa finesse et sa délicatesse d'exécution? C'est une autre question. Quand vous me dites qu'il est plan-plan, la caméra est constamment à l'épaule, avec des panoramiques extrêmement accentuées pour bien aller justement poser le regard sur ce qu'il y a d'horrible, sur ce qu'il y a de plus dégoûtant dans cette famine-là. Donc elle insiste énormément. Et au cas où on n'aurait pas encore compris, on a Orwell qui lit La ferme des animaux dessus pour bien nous faire comprendre d'où vient l'inspiration et tout bien.
Qui était la grande, je le rappelle, la grande fable anticommuniste
d'Orwell
dont on a parlé au masque pendant le confinement.
Et comment cette tragédie reportée par ce journaliste justement a nourri les idées de George Orwell. Alors moi j'étais content de voir James Norton dans un rôle principal puisque c'est peut-être le futur James Bond. En tout cas tout le monde murmure son nom pour reprendre le rôle de 007. C'est un excellent acteur qu'on voyait surtout à la télévision jusque-là britannique, mais j'aurais voulu aimer un peu de délicatesse. Est-ce qu'on est obligé de faire boiter à ce point le méchant pour bien nous faire comprendre qu'il est vraiment très très méchant? Il a des allures de majordome, vous savez, dans les films d'horreur qui ouvrent la porte comme ça aux futures victimes. Oh, venez, entrez. Enfin, voilà. De temps en temps, on a envie de lui dire, Agnieszka, tranquille, elle a des moyens, elle les use plutôt bien, le devoir de mémoire est accompli, mais le devoir de cinéma...
Michel.
La Hollande ne comprend rien à la Russie.
Michel.
Je pense que je suis très partagé sur ce film. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme, sur l'importance qu'il a, parce que c'est vrai que la représentation des crimes de Staline est infiniment, je dis pas, c'est un par rapport à 100 à ceux d'Hitler. C'est-à-dire entre ses complices en totalitarisme, en extermination de dizaines de millions de gens, Staline est plutôt bien traité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de films sur ce sujet. Donc c'est vrai que c'est un film important qu'il faut considérer. En même temps, c'est vrai que le film, il y a un double aspect. Il y a une introduction extrêmement longue où on met du temps à s'installer. Il y a des éléments dont tu viens de parler, Xavier, c'est-à-dire par exemple Orwell, La ferme des animaux, tout ça est absolument inutile. Le film faisait déjà 2h25, elle en a coupé 30 ou 40 minutes. C'est peut-être le défaut aussi de sa scénariste, qui est une débutante. C'est un scénario extrêmement filandreux, lâche, etc. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive en Ukraine et dès qu'elle filme dans des tons presque monochromes tout ce qui se passe en Ukraine à ce moment-là, cette extermination par la famine venant de Staline, c'est tout à fait passionnant. Et donc, je pense qu'on peut s'interroger encore une fois sur la cécité du monde occidental et ce journaliste, évidemment, complice, qui trouve que ça très bien, qui partout.
C'est Walter Duranty qui avait, entre parenthèses, qui était prix Pulitzer. Hein.
Voilà, absolument, prix Pulitzer. On peut s'interroger sur la cécité de la presse, qu'elle soit bourgeoise ou encore plus communiste, évidemment, qui n'a jamais parlé de ça. D'ailleurs, le titre du film en Angleterre, en Amérique, c'est Mr. Jones. C'est dire à quel point le personnage est connu, puisqu'on peut bâtir un film de cette ampleur sur le nom de ce journaliste, qui est complètement inconnu en France, d'où l'ombre de Staline, évidemment, qui est plus commerciale.
L'ombre de Staline, donc, qui vient de sortir en salle. C'est donc le film d'Agnieszka Holland, Fille de joie, film bref des Belges. Anne Policevitch et Frédéric Fontaine, qui lui aussi devait sortir ce même 18 mars, et donc qui a patienté quelques mois, et c'est le portrait de trois femmes, Axel, c'est Sarah Forestier, Dominique, c'est Noémie Lovski, Conso, c'est Annabelle Langrone, qui se retrouvent sur le parking d'une cité pour prendre la route ensemble, et aller travailler de l'autre côté de la frontière, dans une maison banale, très banale même, transformée en bordel, où elles deviennent tout d'un coup Athéna, Circé et Héra. Et le soir, eh ben, elles retournent chez elles, retrouvent leur famille, leurs amis, leurs problèmes surtout d'ailleurs. Bref, on a compris qu'il ne faut pas trop se fier au titre pour la joie. On repassera. Xavier.
Alors, j'ai peur d'être très seul ce soir, mais moi j'aime bien Fille de joie. Je l'avais vu avant le confinement, je l'ai revu. Et j'aime bien ce côté très farouche du film, qui ne s'excuse jamais du sujet, à l'image d'ailleurs de ces héroïnes, qui ne s'excuse absolument jamais de leur travail, parce que c'est vraiment un boulot. Alors, il est question de frontières, la frontière qu'elles traversent, la frontière entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Et la frontière franco-belge.
On nous explique pas par une espèce comme ça de scénario sociologique pourquoi est-ce qu'elles sont tombées dans la prostitution. Il y a un côté donné comme ça d'emblée que je trouve assez intéressant. Alors on va me dire, ah, mais vous pouvez pas dire ça, un film sur la prostitution obligatoirement, ça doit dénoncer l'exploitation des corps. Oui, elles sont exploitées de toute façon, mais elles se vengent, elles ont un côté comme ça très lucide sur ce qu'elles sont, sur la manière dont elles sont vues par leurs clients. Elles finiront par se venger d'ailleurs des hommes qui les maltraitent. Je trouve qu'il y a une énergie dans le film qui passe par les comédiennes, mais qui passe aussi par le montage et par la mise en scène, qui ne se trompe jamais de point de vue, qui n'est jamais glauque, qui n'est jamais insistant. Et c'est vrai que le sujet, il est là. Comment parler de la prostitution? C'est un parti pris, c'est une façon de faire, mais je trouve qu'elle est tenue du début jusqu'à la fin. Elle est complètement légitime. On la comprend à travers la mise en scène et à travers le récit et la manière dont il se déroule. On a tellement de films sur la sociologie de la prostitution. Je vais pas dire que le film a du charme parce qu'évidemment on va encore très mal l'interpréter, mais je trouve qu'il a un côté refusant le glauque, refusant l'atermoiement, refusant la commisération. Elles sont dignes, elles sont farouches. C'est un métier comme un autre. Hélas, alors là, je pense que je vais me faire assassiner sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je n'y suis pas. Mais en termes de cinéma et en termes de récit, en termes de personnages, c'est un film qui séduit.
Eva.
J'aurais aimé en dire du bien, parce que c'est difficile pour les films de sortir, sortir en salle. Je trouve que c'est un film qui apparemment part d'une base documentaire. La scénariste est allée se renseigner dans une maison close. On part de quelque chose de vrai et c'est un film que je trouve qui sonne faux. Les personnages sont caractérisés tout de suite. Alors, nous avons Sarah Forestier qui crie beaucoup, c'est le dehors de chez elle. Nous avons celle qui s'appelle Coco dans le film qui dit « être technicienne de surface, merci beaucoup, donc je vais être prostituée, je préfère à ça ». Et on comprend pas très bien pourquoi.
C'est un peu la même chose.
Noémie Lovski, qui est infirmière, on la voit décider d'injecter de la morphine, devient prostituée. Déjà même... comment on arrive à être infirmière et être prostituée tous les jours? Je ne sais pas comment on fait, mais indépendamment de ça, je trouve que les personnages sont des sortes de vignettes où on ne voit pas leur vie. Elles sont caractérisées au départ. Et après, ce côté film de revanche où les femmes se vengent des hommes en employant les mêmes moyens, le revenge porn, tu as été méchant avec ma copine, je vais te punir, et il y a même un crime. Enfin, je trouve que on arrive à faire un film qui, à tout moment, sonne faux, alors qu'il est parti d'une enquête et de choses qu'ils ont vues de leurs yeux. Même les scènes quand elles sont dans le salon de la maison close avant d'aller voir leurs clients où elles parlent entre elles, il n'y a pas de vérité qui passe.
Eric,
C'est un très mauvais exemple, ces filles, parce qu'elles ne respectent pas du tout la distanciation là-dedans. C'est d'un inintérêt total, en plus. Pourquoi on se pencherait sur le cas de ces filles, comme dit Eva, qu'on ne nous présente pas? On ne sait pas pourquoi elles font ça, on ne sait pas ce qu'elles font, si ça leur
mieux.
Plaît. Mais non.
Bien sûr que si.
Et c'est vraiment, il faut être sensible aux, au pathétique banlieusard qui plaît tant à nos contemporains, là, pour voir ce film-là, glaireux, avec toutes ces pauvres filles. C'est, on est gêné pour Noémie Lvovsky, qui, à un moment, mime un orgasme, mais on compare la scène de Meg Ryan dans Harry et Sally, et c'est pas à son avantage.
Elle était meilleure en bonne sœur dans La Bonne Épouse.
Et à un autre moment, elle raconte une anecdote, un client à qui elle a fait boire son sperme, et le type fait un rot comme s'il avait bu cul sec à un Coca-Cola, et quand je dis cul sec, l'expression est mal choisie. Non, le film est quand même déplaisant, plat, quotidien, on voit une des prostituées pisser dans un parking, c'est vachement intéressant. On apprend quelque chose, tu as raison Jérôme, on a les tarifs, c'est que le magnum de champagne coûte 500 €, une demi-heure avec une des filles, c'est 100 €. Mais 15 € la place pour ce film, c'est beaucoup trop cher.
Michel.
Moi, je trouve que c'est un film détestable. Enfin, il représente tout ce que je déteste dans toute une tendance du cinéma d'auteur, dit d'auteur. C'est laid à voir, c'est pas mis en scène du tout. Heureusement, parce que nous avons beaucoup de très bonnes actrices en France. Il y a Sarah Forestier, Noémie Lvovsky, et j'aime bien ce moment de quand elle mime l'extase, la jouissance féminine. Je trouve ça assez drôle. Mais c'est tout. Évidemment, je sais que ça fait très vieux schnock de rappeler tout de même La Rue de la Honte de Mizoguchi, La Maison Tellier de Fulz, même récemment le film de Bonello sur lequel j'avais des réserves, mais qui sont des entreprises esthétiques, qui sont d'abord d'un respect des personnages chez Fulz ou chez Mizoguchi, un respect des personnages. Ici, naturellement, il tombe dans le travers stupide que, comme c'est la prostitution, il faut montrer des parties de jambes en l'air qui n'ont aucun intérêt, qui sont mal filmées. On n'en a absolument aucun intérêt esthétique. Ça n'a rien à voir, des corps qui s'enlacent, etc., sur des lits. Je trouve ça vraiment d'une médiocrité, mais insensée. C'est vraiment terrible que des gens encore dépensent tant d'argent pour faire des choses aussi médiocres.
C'est de la peine à Xavier, hein.
Oui,
va reprendre une
c'est son côté macro, là, qui souffre.
Tu peux y aller deux fois, si ou quatre fois.
Fille
nous,
de joie, c'est donc ce sera signé gratuit. Anne Polisevitch et Frédéric Fontaine. La troisième nouveauté de la semaine, c'est Béni, premier long métrage de l'Allemande Nora Finkscheid, qui a déjà signé plusieurs courts et moyens métrages. Et c'est le parcours du combattant, ou plutôt de la petite combattante Bernadette, alias Béni, jouée par Elena Zengel, qui faut dire qu'elle est assez impressionnante. Fillette de 9 ans, à la fois hyperactive, sauvage, agressive, et devant laquelle la mère a démissionné. La petite va de famille d'accueil en centre spécialisé jusqu'au jour où la responsable des services sociaux la confie à un éducateur qui a travaillé avec des garçons délinquants. Beaucoup, beaucoup d'hystérie, de hurlements, d'esthétisation sur le thème évidemment de l'enfance malmenée. Ce qui m'a donné l'impression en sortant de ce film que Xavier Dolan était d'une sobriété, d'une modération absolument exemplaire comparé à ce Béni Michel.
Non, je trouve que Xavier Dolan reste non sobre et parfois c'est de très beaux films qu'il a fait, mais aussi d'autres totalement ratés. Et je pense que ce film est une promesse. Elle a pas volé son ours d'argent à Berlin. C'est un premier film. Je trouve que c'est un film, effectivement, il y a beaucoup de cris, etc., parce que c'est le sujet même du film, c'est-à-dire une enfant indomptable devant lequel les parents et les adultes sont totalement impuissants. Mais moi, ce que j'aime, d'une part, c'est les constamment intéressant du point de vue du jeu des comédiens, pas seulement la petite, je trouve que tous les personnages sont extrêmement intéressants. On pense, avec l'éducateur qui la prend sous sa coupe, à Miracle en Alabama, qui était un film aussi plein de hurlements, plein de d'hystérie, etc. Mais je trouve que chaque plan est composé, c'est pas seulement la caméra portée, mais c'est aussi une attention au cadre, une attention à l'expression des comédiens. Et je trouve que ce film m'a vraiment extrêmement intéressé, même si au départ le sujet n'est pas d'une extrême originalité, ça a déjà été traité, ce genre de sujet. Donc c'est un film que je trouve extrêmement attachant et qui promet une carrière. Je ne sais pas ce qu'elle fera plus tard, mais en tout cas pour moi c'est un film prometteur.
Xavier.
Ah bah, je suis pas d'accord avec toi. Elle l'a volé, son ours d'argent. C'est un film au chantage. Allez-y, l'enfance malheureuse, l'enfance sadisée à la fois par le système et par la metteur en scène, hein, qui est loin d'être innocente dans cette histoire. Moi, j'avais vu le film il y a un an et demi, donc au Festival de Berlin, dans la grande salle. Je suis sorti avec les oreilles qui saignaient, quoi. Je suis allé voir un médecin parce que je ne savais pas ce qui s'était passé. Elle hurle constamment. Alors, on a bien compris qu'elle hurlait parce qu'elle souffrait. D'accord. Il y a un moment, on s'est dit, chouette, elle va pas hurler. Sa mère lui dit, je vais peut-être te reprendre. Elles sont au fast-food. Bah, si, la gamine renverse, continue de renverser. renverser les frites, les chaises, les machins, et elle hurle debout sur la table de joie.
Oui, enfin, écoute, Michel, comment canaliser un être atypique? Comment canaliser un enfant?
Mais le film n'est pas là. Le film est un scénario.
C'est le même sujet.
Le film est un scénario qui passe son temps justement à accentuer et à provoquer ses cris. La mère lui dit, je vais te reprendre. Et évidemment, le jour, elle doit arriver à la surprise non générale. Eh ben non, finalement, je peux pas. Et elle claque la porte derrière elle. Donc la gamine réhurle jusque. Non, non, le film, alors, tu dis qu'il y a un point de vue, c'est de la caméra à l'épaule, comme ça, qui étire des scènes de manière totalement.
Les Dardennes aussi, c'est magnifique, les Dardennes.
Oui, ah oui, ben, les Dardennes sont magnifiques. On est bien d'accord comme quoi c'est pas le mouvement de caméra, mais c'est le point de vue qui fait le cinéma. Michel, je pensais que tu savais ça à ton âge avancé.
Excuse-moi, je ne sais pas.
Mais,
voilà. Je sais pas regarder.
Et alors, si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin, il y a quand même un plan final arrêté que je ne raconterai pas, qui est un des trucs les plus ridiculement lourd, métaphorique, insistant, surlignant, que j'ai vu depuis longtemps.
C'est pas surligné, puisqu'on ne sait pas exactement ce que veut dire ce plan final, justement.
Oh bah si, Michel, excuse-moi, on en parlera après l'émission, je te raconterai, avant qu'on entende une version assez médiocre, d'ailleurs, d'un des airs de la comédie musicale Air. Non, non, c'est un film alors vraiment détestable, moi.
Eva.
Xavier, je te propose qu'on fasse notre vie ensemble. Parce que tout ce que tu aimes, j'aime pas. Tout ce que j'aime, tu n'aimes pas. Donc c'est formidable, on s'ennuierait jamais.
Ah bon? Ça, je suis entièrement d'accord.
Il faut deux postes de télévision.
Deux postes de télévision. Écoute, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui suit totalement son propos. Ni toi ni moi ne sommes assistants sociaux. On sait pas qu'est-ce que c'est que des enfants qui ont des troubles de la personnalité extrêmement importants. Cet enfant est incasable, comme on va découvrir à la fin du film. Qu'est-ce que tu fais d'un enfant qui est renvoyé de 36 foyers, dont la maman ne veut pas, non pas parce que c'est une mère abandonnante, une junkie ou je ne sais quoi. Non, elle a d'autres enfants dont elle s'occupe.
Elle a démissionné.
Elle a démissionné parce que cet enfant lui fait peur, parce qu'elle a peur pour ses deux enfants, parce qu'elle ne sait pas quoi faire face à cette violence. Et je trouve que le film, il suit cet enfant, il a une empathie avec elle, mais il n'est pas en surplomb. Il ne te dit pas, eh bien, j'ai mon pouvoir de cinéaste, je vais décider que ça finit bien. Et les services sociaux, c'est la première fois que je vois un film où on montre des services sociaux qui font tout ce qu'ils peuvent. La scène la plus émouvante, c'est pas la petite fille qui m'émeut, c'est qu'au moment où l'assistance sociale a pris un énième échec, eh bien, elle tombe le long du mur et elle pleure. Parce que qu'est-ce que tu fais d'un enfant incasable? Et je trouve que la caméra est honnête parce qu'elle suit cet enfant incasable. Elle te donne quelques bribes d'explications. Elle a mal à sa mère, d'accord. Elle a apparemment vécu des violences dans sa petite enfance. On n'en sait pas beaucoup plus. Mais tu es là face à ce problème. Et il n'y a pas de solution.
Et pourquoi le scénario est-il à ce point prévisible?
Il n'est pas prévisible.
Mais bien sûr que si, quand elle s'enferme avec le fils de l'éducateur, on l'a vu venir, mais à 200
kilomètres. Oui, mais peu importe, c'est pas très grave.
Mais non, c'est pas très grave, parce que c'est tout le temps
difficile. Par rapport au fait que la caméra suit un problème extrêmement difficile et le suit honnêtement.
Eric?
La vache, quel film. Non, sans blague, cette gamine, c'est à côté l'enfant sauvage de Truffaut a l'air d'être une demoiselle de la Légion d'honneur.
Je redonne son nom, Elena Zengel.
Ah, c'est une actrice, mais phénoménale. Hein. Je sais pas ce qu'elle donnera ensuite, mais avec son visage d'ange, là, et c'est pas un monstre, c'est un ovni, cette fille. On sait pas ce qu'elle a. Elle a un truc très bizarre, c'est qu'elle pète un plomb quand on lui effleure le visage. Alors apparemment, on aurait essayé de l'étouffer quand elle était bébé, quelque chose comme ça. C'est peut-être les petits points faibles du film, ça, quand on voit des brefs séquences. Mais c'est pas très grave, parce que le film a une énergie, une force. C'est vraiment un coup de poing à chaque séquence. Et puis, cette gamine reste un mystère pour moi. C'est qu'est-ce qu'on en fait, comme dit Eva. La mère est totalement dépassée. Et elle adore sa mère. Il y a une séquence très belle, à part celle où l'éducatrice tombe en larmes le long d'un mur. Elle est en haut d'une montagne, la petite fille. Ah oui. Elle appelle sa mère. Et bizarrement, l'écho ne lui répond rien. Et j'ai trouvé ça très très bon. Et il y a un tas de scènes. Cette fille est une boule de nerfs, un concentré d'énergie et de violence. On a envie de l'étrangler, on a envie de la cajoler. Et on ne sait pas quoi en faire. Mais oui.
Moi, je l'approche pas. Hein. Merci, chien.
Non, non, mais que peut-on faire avec des enfants comme ça? Déjà, avoir des enfants normaux, c'est pas facile. Mais une gamine de cette trempe-là, qu'est-ce que tu fais? Et la caméra a une fébrilité qui correspond parfaitement au sujet. C'est très très bien que ça bouge tout le temps, que cette fille parte dans tous les sens.
Premier degré.
Non, non, non. C'est un film très physique. Très sensuel, très sensible et très très juste.
Béni,
je
donc
dis béni, oui, oui.
Le premier long métrage de Nora Finkscheid. Pour saluer le scénariste et parolier Jean-Loup Dabadie, disparu le 24 mai dernier, J'aurais pu choisir Clairant Bar d'Yves Robert, Le Sauvage de Rapneau, Une belle fille comme moi de Truffaut, et parmi tous les films de Sauteil qu'il a coécrit, Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, Vincent, François, Paul et les autres, et j'ai finalement retenu mon favori, tout simplement, c'est ce qu'il y a de plus simple, César et Rosalie, film de 1972, disponible chez Studio Canal, où Claude Sautet orchestre entre Paris, Noirmoutier et Sète, un inoubliable trio amoureux, plus émouvant encore pour moi que celui de Jules et Jim. Deux hommes, le ramenard, le ferrailleur César, c'est Yves Montand, et l'ombrageux dessinateur de BD David, c'est Samy Fray, qui aime passionnément, ça on les comprend, la même femme, Romy Schneider, alias Rosalie, avec en voix off, un autre disparu, c'est Michel Piccoli, Les jolis débuts, sur l'île de Noirmoutier en ciré jaune de la toute jeune Isabelle Huppert, la musique de Philippe Sard et une fin ouverte qui pour moi est un modèle du genre. Voilà, je vous préviens, je connais ce film par cœur, presque plan après plan, et je l'adore. Donc si vous ne voulez pas être brouillé avec moi, vous n'en dites pas de mal, Eric.
Ah bah, je vais me fâcher avec toi parce que je l'aime encore plus que toi. C'est pour moi, c'est la
perfection. Pas possible.
C'est la perfection, ce film. Il n'y a rien à rajouter, rien à ôter. On peut le revoir 100 fois. C'est magique. Je sais pas ce qui s'est passé. En général, Dabadie et Sautet, ça donne des trucs miraculeux. Mais là, c'est le meilleur rôle de Montand, le plus beau rôle de Romy Schneider. On apprend tout. Là, on voit ce film-là à 16 ans et on sait tout sur ce que va être la vie, ce que va être le travail, ce que vont être les sentiments, les mariages, les divorces, ce que c'est que le rapport entre les hommes et les femmes. Il y a toutes les obsessions de Sautet, les bagnoles, la petite Fiat orange de Samy Fray, les grosses américaines.
La longue Citroën.
La SM avec un moteur Maserati qui n'a duré que 2-3 ans à l'époque. Il y a Noirmoutier, il y a Sète, il y a un Paris comme on ne le verra plus jamais.
C'est tout près de la plage d'Agnès Varda d'ailleurs.
Oui, pareil. Hein. Ouais. Non, tout est bien et les dialogues et les situations sont d'une justesse. Il n'y a pas un mot qui choque à l'oreille. Il y a les restaurants, il y a les nuits blanches, il y a les parties de poker, il y a les hommes qui boivent trop, qui ne comprennent rien aux femmes, et il y a Romy Schneider, dont on ne saura jamais si elle est une emmerdeuse ou une emmerderesse, comme on dit, mais qui est indispensable.
Emmerdée,
et on ne saura jamais ce qui se passe.
Elle est emmerdée, disait Sautet.
Au plan arrêté de la fin, elle est devant
oui,
ce...
Oui, mais enfin...
Dabadie disait, c'est une emmerdeuse. Dabadie était bloqué dans le scénario, il disait, c'est une emmerdeuse.
Ouais.
Et Sautet disait, non, elle est emmerdée.
Aussi, oui, c'est
donc,
vrai.
Donc, je vais jusqu'au bout de ce que je voulais dire, on ne saura jamais ce qui va se passer quand non, elle voit, mais... en train de déjeuner, de rigoler et de rigoler.
Et le regard que j'ai de Samy Fray à Montand à ce moment-là
formidable,
est fabuleux,
formidable.
Un jeu d'acteur.
Eva.
Chaque fois qu'on revoit ce film, on a une lecture différente. Et là, j'avais une lecture encore différente. Je me disais, c'est pas César et Rosalie, c'est d'abord César. Le film est porté par l'énergie de César. Le film, c'est lui qui va à un moment donné chercher Samy Fray pour lui dire, elle est malheureuse sans toi qui l'amène. Est-ce que c'est... Tout d'un coup, son esprit s'est ouvert. Ou est-ce qu'il est manipulateur?
Il sait plus quoi faire.
Et oui, mais tout procède de lui. Tout. Il n'y a pas une scène qui ne procède pas de lui. Même ce sont ses bêtises, quand il va mentir à un moment donné, qui vont faire avancer l'action, qui vont l'éloigner d'elle. Donc je trouve que c'est extraordinaire, parce que dans un trio amoureux, on a dans la tête que le trio amoureux est autour de la personne que les deux autres personnes veulent. Or là, je trouve que le trio amoureux, il est autour de César. Et quand après, il y a l'amitié entre Samy Fray...
C'est qu'à la fin, ça.
Et à la fin. Mais là aussi, c'est autour de César, en fait. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que ça va à l'encontre de l'idée qu'on a du trio amoureux.
Michel. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Alors, je pense que Cocteau disait « On ne chante bien que dans son arbre généalogique ». Et c'est tout à fait vrai pour Sautet, c'est-à-dire il est dans la grande tradition psychologique et morale, c'est-à-dire c'est un portrait, alors que je trouve passionnant, parce que au début, c'est des personnages qui sont un peu standardisés, c'est-à-dire le hableur assez antipathique, qui est joué, assez macho, qui est joué par Yves Montand.
Qui chante très bien Bach.
Et Yves Montand, il faut le signaler, c'est un film qui a changé complètement sa carrière, parce que jusque-là, c'était un poids lourd de films très graves, très sérieux, Costa Gavras, Alain René, Clouzot, etc. Et là, on découvre un Yves Montand qui est proche de lui-même, c'est-à-dire une sorte de, effectivement, de méditerranéen extrêmement expansif. Il est génial, mais c'est vrai qu'au début, il est pris un peu comme ça, à distance. Et petit à petit, ça se complexifie. Comme les rapports entre les deux hommes, qui finalement créent une sorte d'amitié très forte, qui les unit. Et finalement, Je pense que c'est le plus grand film qu'on ait fait sur le trio amoureux avec Sérénade à trois de Lubitsch. Ce sont deux chefs-d'œuvre sur le même sujet. Donc tout est beau, le rythme est extraordinaire, les scènes de voiture, la façon dont c'est rythmé. C'est un rythme musical absolument parfait.
La musique est d'ailleurs très belle de Sardou. Tu te souviens de ce le masque qu'on avait dit à l'époque, non, Michel?
Non, tu vas me le dire.
C'est une question que je te pose.
Je pense que vous savez, Soutet, ensuite il a été attaqué par toute une clique qui a essayé de le démolir comme un cinéaste pompidolien, académique, etc. Ridicule. Soutet était admiré de la critique. Je pense que l'accueil au Masque et la Plume devait être très bon parce que c'était pas une émission à œillères.
Le sentiment de Xavier sur César et Rosalie.
Je dois avouer, confesser ici que j'ai mis du temps à me réconcilier avec le cinéma de Sauté. À 15-16 ans, quand je le voyais, sans doute influencé par cette clique.
Par la tox,
bien sûr, effectivement.
Des gens qui venaient jusqu'à chez moi.
Moi, j'étais plus Romère et j'étais plus René. Excuse-moi, Michel. Mais
les derniers films étaient beaucoup moins bien aussi.
Oui, et puis voilà, ce que je voyais
Nelly
en salle.
Monsieur Arnaud,
je croyais avoir bêtement la parole, mais bon, je la reprendrai un jour, enfin, c'est pas grave, merci Michel. Et puis j'ai revu, effectivement, César et Rosalie, j'ai revu le cinéma de Sauté, j'ai été aidé par l'excellent documentaire que N.T. Bean, contributeur à la revue Positif, dont on dira jamais c'est les qualités, a réalisé sur Sauté, vraiment expliquant justement que derrière les apparences de la bourgeoisie, il y avait une façon de fissurer un tout petit peu le modèle, et c'est complètement là. Et pour une fois, je suis d'accord avec Eva, donc on peut quand même se marier,
tu vois. Ah oui, d'accord. C'est
avant tout l'histoire d'un homme qui tombe, d'un homme blanc, d'un homme viril, d'un homme qui conduit des voitures, d'un homme qui a une casse, alors que son rival, entre guillemets, est un artiste, enfin en tout cas quelqu'un comme ça qui fait de la bande dessinée, et c'est un homme qui ne pensait pas un jour devoir tomber et de son piédestal et de son statut d'homme viril, il pensait avoir tous les pouvoirs, et je trouve le début absolument magistral, c'est-à-dire qu'avant de voir Yves Montand et Romy Schneider, on voit Samy Frey chez son ami peintre, et le plan s'arrête sur le moment où Samy Frey est à côté du portrait de Romy Schneider, et c'est absolument bouleversant. Je pense que cette manière de raconter, on comprend qu'ils ont été amants autrefois, qu'il l'a aimé, et en contrepoint, on a la scène où Yves Montand débarque dans la chambre de Romy Schneider en faisant c'est moi, fanfaronnant, et je ne sais pas si c'est voulu de la part de Romy Schneider ou de Claude Sauté, elle se moque très légèrement et très finement de son accent un peu populeux. Quoi, c'est toi, elle l'accentue un tout petit peu, et déjà c'est un couple dissonant, c'est un couple dont on comprendra jamais complètement les tenants et les aboutissants, et pourtant la mise en scène de Sauté et l'écriture de Dabadie va nous faire comprendre effectivement la fusion entre cet homme et cette femme qui ont pourtant l'air vraiment n'avoir rien à faire ensemble. Il y a des dialogues sublimes. Toi, David, qui m'emmène sans m'entraîner. Oui, ça, je trouve que c'est à pleurer. En revanche, parce qu'il faut bien quand même que je joue les emmerdeurs une fois encore ce soir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, avec le plan de fin. Il contredit pour moi la construction psychologique de Rosalie.
Pas du tout.
On en discutera un jour.
On en discutera. Voilà. Voyez, revoyez.
Dans la logique, en tout cas, et dans ma façon de manière,
j'ai vu. On demandera à Dolan de faire la suite.
César et Rosalie de Claude Sautet. Allez, le temps passe. Maintenant, une rareté, c'est La Roue d'Abel Gance, film de 1923, totalement restauré. Ça a pris beaucoup de temps, qui vient de sortir chez Pathé en DVD et coffret Blu-ray dans sa version reconstituée de 7 heures. Le mécanicien chef Sisyphe, oui, comme le rocher de Sisyphe, mais c'est pas la même orthographe, qui était joué par Séverin Mars, recueille une orpheline à la suite d'une catastrophe de chemin de fer. Il élève donc la petite Norma, qui est Evie Close, avec son fils Élie. Mais peu à peu, Sisyphe s'éprend de sa fille adoptive, que convoite un ingénieur à particules, Jacques de Hersan, qui est joué par Pierre Magnier, lequel menace Sisyphe d'un chantage s'il ne lui donne pas Norma, et ça n'est qu'un début. Je vais pas raconter les 7 heures, l'histoire va se poursuivre jusqu'à Chamonix et se terminer tragiquement. La première du film eut lieu le 16 février 1923. Michel y était, je crois, au Gaumont Palace. C'est le plus grand cinéma du monde, avec pour accompagner le film une playlist concoctée par Arthur Honegger et Paul Fauss, ça s'invente pas, où on trouvait Forêt, Debussy, Saint-Saëns, Massenet. Il y a le cinéma d'avant et d'après La Roue, disait Cocteau, comme il y a la peinture d'avant et d'après Picasso. Ah oui, j'oubliais quand même un détail, est crédité au titre d'assistant réalisateur à un certain Blaise Cendrars. Michel.
Alors, je vais être peut-être un peu sacrilège parce que Gans est devenu une sorte de totem, absolument le génie du cinéma français, etc. J'ai pas du tout ce sentiment. Je trouve que ce film, par moment, est absolument extraordinaire, en particulier le début, par le montage, le rythme, la locomotive, tout ce qui concerne ça, c'est absolument fabuleux. C'est vraiment digne des plus grands. Mais en même temps, je pense que les grands artistes, c'est une combinaison d'intuition et d'intelligence. Et Gans est un intuitif. C'est-à-dire qu'il a trouvé des choses au cinéma, effectivement. Mais il y a un manque d'intelligence qui fait que sur ces 7 heures, sur cette épopée du rail, il y a beaucoup de tunnels. Beaucoup de tunnels. Il faut tout de même le dire. Ça dure 7 heures. Avec des jeux empoulés. Quand on pense que c'est la même année que Stroheim faisait Les Rapaces, que Chaplin faisait L'Opinion publique, que Lubitsch faisait Comédienne, que Fritz Lang faisait Mabuse, exactement à la même époque, oser mettre ce film sur le même, comme le dit Cocteau, après, pas du tout. En même temps, il y avait des génies qui combinait l'intelligence et l'intuition. Gans avait des intuitions géniales, mais aussi un côté absolument pompeux, enflé, etc., qui fait que ces 7 heures, il faut tout de même les subir. Alors, en même temps, je ne renie pas que des morceaux de la rue sont stupéfiants. Et je salue Pathé, qui a restauré extraordinairement...
Ça a duré 4 ans pour arriver à la restauration.
Extraordinaire travail de restauration, avec des bonus qui expliquent tout cela. On voit le court-métrage de Sandrard qu'il a réalisé sur ce film. Donc, bravo de nous rendre enfin ce film, qui est une date dans l'histoire du cinéma, mais en même temps, c'est pas non plus le chef-d'œuvre attendu.
Éric.
J'allais mourir idiot, mais grâce à toi, j'ai découvert ce film que je n'avais pas vu.
Idiot,
oui, rassure-toi.
Je te rassure,
ouais,
ouais. Non, mais...
Et je t'en remercie parce que c'est une des choses qu'il faut avoir fait dans sa vie, voir la roue dans l'intégralité. C'est formidable. Et, mais en même temps, il y a un petit côté un peu ridicule à voir Dupont-Neuf ou Durand-Simon parler d'Abel Gans en pinaillant, parce que le film, c'est pas un film, c'est un fleuve, c'est une tragédie, c'est un voyage, on s'immerge là-dedans pendant des heures et des heures. C'est prodigieux, il y a des scènes qu'on n'oubliera jamais, un rythme fou, et il arrive à faire une scène d'enterrement, à proprement parler, d'une locomotive en parallèle avec une procession qui passe.
Mais les comédiens, à part Séverin Marx...
Mais non, mais tout est bien là-dedans.
C'est un jeu atroce.
Non, c'est un film magnifique. On a l'impression de découvrir l'Iliade et l'Odyssée du cinéma, là. C'est
des comédiens.
Mais c'est des comédiens du muet.
Mais Liliane Guiche, c'est bouleversant.
Mais là aussi...
Le muet, c'est un mauvais muet.
Et à un moment donné, il y a un carton signé Sandra, et ce film, ça n'est pas la petite prose du Transsibérien, c'est la grande poésie du cinéma, et ça mériterait qu'on reconfine, rien que pour pouvoir voir ça chez soi.
Bon, Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Eric, donc je vais prendre très peu de temps pour soutenir et défendre ce film qui m'a emporté. Je ne le connaissais pas dans sa version intégrale. C'est un feuilleton. En plus, il y a des rebondissements, c'est quand même un mélo. Il y a une succession comme ça de choses improbables. Norma, qui passe pour être sa fille, ne l'est pas. Il l'a volée lors d'un accident de train, donc ça commence quand même sur une séquence assez sombre. Et du coup...
Enfin, il l'a volée, il l'a recueillie surtout.
Il l'a recueillie, mais il a détruit la preuve quand même qui faisait que la petite fille avait une maman qui avait disparu pendant l'accident. Donc elle est devenue sa fille et son fils, évidemment, la regarde. Et c'est un amour interdit qui va quand même perdurer pendant près de 7 heures. C'est un mélo. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi, Michel. Le jeu, il va très bien avec la mise en scène. Il y a des regards caméra, il y a une caméra objective, il invente des choses extraordinaires, il y a un jeu avec les iris. Non, c'est inventif constamment, et je suis comme Eric, mais on se prend au jeu. Moi, je pensais en regarder 2 heures, et 7 heures plus tard, j'étais mais fou de joie d'avoir découvert la roue.
En fait, tu aurais presque pu l'inscrire à une heure en série.
Mais bien sûr, mais évidemment, on peut le redécouper en épisode.
Moi, je suis la personne qui suis en train de le voir, donc je n'ai pas terminé.
Ah bon, on raconte la fin,
mais je trouve ça formidable parce qu'effectivement ça pose pas de problème. Je suis très contente à l'idée de retrouver le film. C'est formidable parce que par exemple il y a une scène où la fille tombe sur les rails, il y a le train qui passe dessus et on se dit mais comment ils filment ça? On voit ça dans des films catastrophes d'aujourd'hui et il y a eu un moment de mélo formidable avant. Enfin, il y a une énergie, il y a une inventivité et le fait, alors je voudrais rassurer les gens puisque je fais l'expérience moi-même, le fait de le voir par bout, vous voyez 2 heures et vous verrez 2 heures après, ne gêne absolument pas. Je peux vous raconter la suite plus tard, mais je vais m'arrêter là.
Donc, aller jusqu'au bout.
Bien sûr, mais c'était pour une question de temps et d'organisation que je n'ai pas pu aller plus
Gans,
loin.
Oui, on a compris ça. La rumeur, ça tu l'as vu, je sais, jusqu'au bout, de William Wyler, réalisateur de Ben-Hur, des grands espaces, que Wildside ressort en copie restaurée, DVD, Blu-ray, dans une région plutôt huppée des États-Unis. Karen, c'est donc Audrey Hepburn. Et Martha, Shirley MacLaine, dirige un pensionnat pour jeunes filles. L'une d'elles, punie parce qu'elle mentait, accuse les deux directrices d'avoir des rapports inavouables. Aussitôt, les parents retirent leurs enfants du pensionnat et la réputation de ce lieu est détruite. Et on n'est qu'au début des drames que le film nous réserve. Eva, tu l'as vu jusqu'au bout.
Oui, oui. J'ai trouvé ce film, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, formidable. Parce que d'abord, nous savons ce que elles-mêmes, les héroïnes, ne savent pas. C'est-à-dire qu'à la jalousie de Shirley MacLaine, quand sa camarade lui annonce qu'elle va se marier, à la manière dont elle est hostile avec le fiancé, on comprend. Mais elles ne savent pas, et ça date l'époque. Par exemple, le mot de l'homosexualité n'est jamais prononcé, jamais. C'est une rumeur, mais jamais le mot n'arrive jusqu'à nos oreilles. Et il y a, par exemple, des procédés quand la petite fille qui ment le dit à sa grand-mère, c'est dans une voiture filmée derrière une vitre. Et c'est tiré d'une pièce, c'est inspiré d'une pièce de théâtre. Donc on comprend qu'il y ait des choses qui soient hors champ. Mais par exemple, le fait qu'il y ait un procès en diffamation, c'est juste qu'elles ont perdu évoquer d'une ligne. Et c'est plus qu'une rumeur, c'est un poison. Puisque même la vérité ne pourra rien réparer. Même ce fiancé qui a été formidable, le fait qu'il ait pu imaginer une seconde suffit à tuer leur histoire. Ça fait penser...
En même temps, il ne faut pas raconter la fin.
Je ne raconte pas la fin. Mais je trouve que c'est extraordinaire comment, avec finalement une économie des faits, il fait sentir ce que c'est que ce poison-là. Il y a une scène de confrontation avec une enfant qui communique un enfant qui la fameuse méchante. Il y a une aversion. Ceux qui sont censés être les gentils, l'enfance est perverse. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce film qui se déroulent comme ça, à bas bruit. Je trouve ça vraiment très très fort.
Éric,
Si on est optimiste, on dira que c'est vintage, et si on est plus pessimiste, on dira que c'est daté parce que
c'est un film de
61.
61.
Ouais. Et ouais, c'est quand même le solide pudding à l'ancienne, hein, avec plein de bons sentiments, c'est du costaud. Ça manque beaucoup de soufre, je trouve. On sent un petit peu la province huppée, comme ça, mais comme pensionnat de jeunes filles, je préfère celui des proies avec Clint Eastwood pour la perversion. Et c'est tiré d'une pièce de Lillian Hellman, qui était la scénariste qui avait écrit Julia, le film de Zinman. Et sur les couples d'amis, Julia est beaucoup plus réussie, beaucoup plus ambiguë. Alors que là, je trouve ça honnête, solide, mais tellement prévisible que c'est presque gênant. Et c'est à peu près aussi fin que Les risques du métier de Kayat sur un sujet un peu pareil.
Et là, tu ne sauves pas Audrey Hepburn et Shirley MacLaine.
Je trouve que ce sont deux gourdiflottes terribles. Surtout une qui ne comprend rien à ce qui se passe. Et puis l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui joue le médecin, est vraiment mauvais aussi.
Xavier.
Elle ne comprend pas, mais on est à une époque où le mot ne se prononce pas. Il est horriblement tabou. On ne conceptualise absolument pas l'homosexualité. Elle existe, bien évidemment, depuis fort longtemps. C'est un remake de la pièce, c'est une adaptation de la pièce, mais c'est un remake d'un film que William Wyler a d'ailleurs lui-même réalisé en 34. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est une quinzaine d'années après le macartisme, et on ne peut pas s'empêcher de voir à travers la rumeur et ce remake voulu par William Wyler juste après Ben-Hur, où il est auréolé d'Oscar et il a tout Hollywood devant lui, de faire ce petit huis clos extrêmement étouffé. Je trouve qu'Eva a l'adjectif, l'épithète absolument parfait pour le décrire. Et toute la première partie, elle est presque comme un polar, c'est-à-dire le principe de focale qui fait que la petite fille, quand elle espionne au premier plan derrière un mur, elle est très très nette, et les gens qu'elle espionne au dernier plan sont également très très nettes. Et il y a un côté très film noir, très Orson Welles. Au début, elle surveille, elle épie, à la fin, les gens vont, sans vraiment les lapider, venir devant la maison de ces deux femmes qui pourraient s'aimer. Enfin, je trouve que le poids de la délation et de la dénonciation aux États-Unis qui a tué le pays 15 ans avant, il est indiscutablement là. Alors, de temps en temps, il y a la pièce, effectivement, il y a des séquences de 10 minutes qui reprennent la dramaturgie, c'est un peu lourd. Mais je trouve qu'il y a un dialogue, alors je ne sais pas si c'est Wyler qui l'a réécrit ou si c'était dans la pièce, qui dit « les femmes qui s'en sont sorties sont celles qui s'aimaient ». Je trouve que c'est extrêmement audacieux pour l'époque, qui savaient qui elles étaient et qui avaient assumé leur amour. Et bien sûr, il y a des femmes qui s'aiment entre elles à cette époque-là. Et je trouve que rien que pour cette séquence-là, le film garde quand même sa teneur bouleversante, même si la fin, effectivement, est un peu appuyée. On est à l'époque.
Michel.
Oui, alors moi, il y a un seul reproche. Alors, la première version, ils étaient trois, c'était une rumeur autour d'une femme, de deux femmes plutôt, qui aimaient le même homme. C'est un peu le Julie Jim ou César Rosalie, vu par le provincialisme puritain américain. Du coup, le personnage masculin avait beaucoup de présence et était important. Ici, je trouve que le personnage masculin est sacrifié. Parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment le rapport lesbien entre ces deux femmes, qui n'est révélé à elles-mêmes que par la rumeur. C'est-à-dire, sans la rumeur, la femme qui... Ça, je ne veux pas raconter la fin tragique, mais sans la rumeur, cette femme...
Il y a un petit indice, quand même.
Ouais. Cette femme ne saurait pas exactement ses vrais sentiments, qu'elle, confusément, elle ressent. Ce qu'il faut admirer, c'est la mise en scène de Wyler, qui était considéré à l'époque comme le plus grand cinéaste américain vivant avec John Ford. Faut pas oublier, il a été complètement occulté, démoli. C'est le côté claustrophobique, l'utilisation de l'espace, avec ces trois personnages qui sont toujours cadrés de façon, certes, théâtrale, mais ça reste tout de même du très grand cinéma. Et puis l'interprétation, pour moi, exceptionnelle de Audrey Byrne et de Shirley MacLaine. Donc c'est vraiment un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir, et je pense que tout Wyler est à reconsidérer.
On parlait il y a 15 jours du Corbeau et de Clouseau. Eh bien, la rumeur va très bien avec le Corbeau. Et c'est signé William Wyler et ça ressort chez Wildside. Vraiment une toute petite poignée de minutes, tant pis, pour évoquer Prova d'orchestra de Fellini, film de 78, en DVD, au Pacte et en VOD sur Cinéthèque, où on voit un orchestre qui répète une œuvre de Nino Rota dans un oratoire du XIIIe siècle. Les musiciens vont se confier à une équipe de télé venue filmer la répétition et le maestro est, on ne peut plus, cassant et méprisant pour son orchestre qui va se révolter, donner aux auditeurs une raison de voir ou revoir ce film de Fellini. Eric ?
Alors, ce qui est bien, c'est que c'est l'éloge du chef et pas seulement du chef d'orchestre. On voit que même une œuvre d'art a besoin de règles, de quelqu'un pour prendre les choses en main. Mais le film est très marrant, très vivant. Le début est assez beau, on dirait un tableau là dans cette crypte, enfin cette église. La musique de Nino Rota est épatante. Et puis il y a le côté Fellini avec tout ce défilé de gueules, de tronches pas possible, cet humour, ce côté populaire qu'il y a, tous ces gars qui font l'apologie de leur instrument, le crétin qui mime le bruit d'un père avec son tuba, la pianiste qui fait l'amour sous son piano. Et il y a aussi un côté émouvant avec cette poussière et ces fumées qui m'a fait penser à la séquence du métro dans Fellini Roma.
Xavier.
C'est un film sur la lutte des classes à l'intérieur d'un orchestre. Même les instruments connaissent la lutte des classes, parce qu'il y a les instruments nobles contre les instruments roturiers, on va dire. Les cordes contre les cuivres. Même à l'intérieur des cordes et des cuivres, il y a aussi une lutte des classes. Une lutte des classes qui, évidemment, va exploser quand le chef arrive au bout de 25 minutes, une demi-heure, je crois, sur ce film court qui fait 1h15, et qui est un autocrate, un empirique directeur insupportable qui va provoquer une révolte. Pour autant, ça a parfois un tout petit peu vieilli en termes de scénario. C'est parfois un tout petit peu appuyé.
Par rapport à d'autres Fellini, voilà. Ça,
ah oui,
ça que j'aime beaucoup.
Et les fringues.
Le chaos destructeur de la fin, c'est pas ce qu'il a fait de plus subtil. Mais il y a une énergie. Et je trouve que l'idée de ce piccolo saxo version communie, version lutte des classes, eh ben, ça m'a fait rire de le revoir et ça m'a fait plaisir.
Michel.
Moi, je trouve que c'est un très grand film. Et c'est surtout, on a parlé du film de Buñuel. Cet obscur objet du désir, on pense à Orange Mécanique, tous ces films des années 70 avec des génies qui ont une liberté incroyable pour parler de leur époque, parce que c'est juste après l'assassinat d'Aldo Moro, c'est le triomphe des Brigades Rouges, c'est le terrorisme sanguinaire, et Fellini fait un commentaire complètement désabusé, il rejoint la phrase de Valéry sublime, deux dangers menacent le monde, l'ordre et le désordre, et on voit dans ce film comment le désordre amène l'ordre, le retour à l'ordre, et on est en train de vivre une période très semblable, et comment ce désordre général aboutit au culte du chef avec la voix gutturale en allemand, puisque le chef d'orchestre est allemand, qui rétablit l'ordre de façon violente après que les musiciens aient semé la panique et le désordre. Donc c'est une réflexion totalement apocalyptique sur l'époque des années 70.
Eva.
Ce qui est formidable quand on est un grand artiste, c'est que même quand on veut régler un petit compte, on le fait avec brio. Il paraît que il avait eu des problèmes avec des musiciens. Quand il enregistrait la musique de Casanova, quelqu'un qui demandait, parce qu'il y avait la télé qui était présente, avoir une augmentation, il était furieux de ça. Donc il fait ce film après. Et il dit des choses. D'abord, il y a le plaisir de le voir organiser le chaos. On voit tout d'un coup comment tout se dérègle. Ça a l'air d'être anti-syndical, anti-réclamation syndicale et effectivement pour arriver après à la reprise à l'ordre. Donc, il est totalement dans son époque quand il nous montre des chevelus, les syndicats qui vont embêter l'artiste. Et en même temps, je suis d'accord avec Michel, c'est une sorte de parabole sur, attention, le désordre, ça amène aussi la reprise en main qui est illustrée ici par le metteur en scène. Mais on peut le voir aussi juste pour le plaisir de l'exercice.
Prova d'orchestra Fellini, c'est au Pacte et sur Cinéthèque. merci en tout cas ce confinement qui nous aura permis d'évoquer un nombre incroyable de grands films classiques du cinéma au Masque et la Plume depuis le 17 mars. Le conseil de fin d'émission va commencer avec Eva.
Bien, dans la mesure où à nouveau on parle de conquête de l'espace, je voudrais vous recommander deux films, Proxima, d'Alice Vinocourt, que je trouve un très beau film.
Dont le masque avait dit beaucoup de bien.
Oui, et qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. C'est en fait un film qui se passe sur Terre. C'est comment je vais faire pour me séparer de ma fille et partir un an? Comment on apprend une enfant, une séparation qui peut-être être la mort.
Avec une très belle interprétation.
Magnifique. Et puis, bien sûr, High Life de Claire Denis.
Merci.
Deux beaux films français. Parlant de l'espace avec un Pattinson formidable sur des gens condamnés à mort. Enfin, en gros, on leur dit, vous n'avez rien à perdre, partez dans l'espace, on verra ce qui se passera. Et à un moment, il y a un homme et un enfant qui demeurent dans l'espace. C'est deux très beaux films.
Le conseil d'Éric.
Il y en aura deux, autant en emporte le vent, évidemment, parce que avec ce qui se passe, c'est la moindre des choses que de revoir ce film. C'est en train de devenir le DVD le plus demandé sur Amazon, alors achetez-le avant qu'il ne devienne hors de prix ou qu'il ne soit interdit, ce qui va sans doute se produire. Et l'autre conseil, c'est un livre d'Olivier Mine, l'animateur de télévision qui avait déjà écrit une très très bonne biographie de Louis Jourdan. C'est Un château pour Hollywood, c'est l'histoire de l'hôtel Château Marmont, le célèbre hôtel où est mort Jim Belushi. Et on a 50 pages, pratiquement minute par minute de cette soirée-là, du 4 mars 82, qui aboutit au bungalow numéro 3 avec Robin Williams, De Niro, Harry Dean Stanton, tous les gens qui passent et le cadavre de Belushi qu'on trouvera le lendemain matin.
Et c'est chez?
Chez Séguier.
Pour le coup, ben moi je conseille un livre aussi, c'est Piccoli derrière l'écran d'Anne-Marie Mercier, qui vient de paraître chez Zalary. Excellent portrait, je trouve, de ce colosse au pied d'argile qui a eu une enfance très difficile, très violente, très mutique aussi, et qui, dès sa naissance, a dû remplacer un frère aîné qui était mort à 2 ans. Et puis, il y a un chapitre dans le livre formidable, consacré à l'amitié fusionnelle entre Piccoli et le poète André de Richaud, ce clochard magnifique. Et vraiment, peu de temps après la disparition de cet acteur, on trouve l'homme dans ce livre d'Anne-Marie Mercier chez Alary, le conseil de Michel.
Alors c'est la correspondance de Jean-Patrick Manchette, qui est le grand romancier du néo-polar français. Les lettres du mauvais temps, qui est paru chez La Table Ronde. Alors évidemment, c'est une correspondance. D'abord, ce sont de très longues lettres, contrairement à parfois des correspondances où il y a des bribes. C'est vraiment 4 ou 5 pages. Et puis dans cette époque de conformisme moralisateur que nous vivons en ce moment, quel plaisir de lire un esprit indépendant à la Simon Laisse, à la Jean-François Revel. C'est-à-dire un homme qui ne cède devant aucune simplification. Il écrit à des gens comme Robert Cook, comme Donald Westlake, comme Jean Echenoz, des lettres formidables où ils parlent souvent de cinéma. Et d'ailleurs, je signale que ces chroniques cinématographiques de Charlie Hebdo, qui étaient remarquables, viennent de reparaître. C'est Les yeux de la momie chez Wombat.
Alors, sois heureux, Michel, parce que j'ai prévu de parler non seulement de cette correspondance de Manchette, mais aussi de la réédition de certains de ses plus grands polars dans Un masque et la plume de cet été. Xavier.
Eh bien, une ressortie, on va dire, puisque certains films qui avaient commencé leur carrière avant le confinement qui avait été interrompu ressort. Et je vous recommande le film brésilien 3 étés. Alors le titre est trompeur puisque ça se passe pendant les vacances de Noël, mais en Brésil c'est normal, bien évidemment. Il y a on n'est pas dans le même hémisphère, et c'est lors donc de 3 cérémonies de Noël dans une famille bourgeoise, la déchéance justement de cette famille bourgeoise corrompue évidemment, qui va chuter, et le tout observé par une domestique extrêmement sarcastique et drôle et lucide, interprétée par la magistrat Regina Casé, qu'on avait vu dans Une seconde mère. C'est très acide, c'est très perfide, c'est tout ce que j'aime.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Eva Bétan, Éric Nehoff, Xavier Leherpe et Michel Simon pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sella, mais ce soir au théâtre de l'Alliance Française à la Technique. Il y avait, et je les remercie, Bastien Lefort, Yvan Charby, Charles Cérès, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de théâtre, oui, de théâtre. Et je vous dis à samedi et dimanche prochain sur France Inter, évidemment.